Fréville BM. Paranormal.
The flying disc has been found.
A Mythico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Il est là, comme un seul homme.
Bien sûr.
Ah, tu vas nous parler d'abord de Rudolf Hess,
oui,
ce grand personnage du régime nazi.
Voilà, les heures sombres du Troisième Reich. Alors écoute, ouais. Il a été beaucoup question cette semaine dans les médias et médias sociaux des théories du complot. Et en voici un autre de ces complots qui vient d'être déboulonné par un article paru dans le Forensic Science International Genetics. Donc, c'est une publication scientifique qui se consacre à l'avancement des sciences dans le domaine de la génétique. Et tu l'as mentionné, on touche ici Rudolf Hess. Donc, qui est ce Rudolf Hess? Bon, pour ceux qui connaissent pas très bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Rudolf Hess était aux côtés d'Hitler au moment de son ascension et il était au début de 1940, on le percevait comme étant le dauphin d'Adolf Hitler.
Et puis voilà, très proche.
Hein, il était, c'est un compagnon de premières armes. Là. Il est là depuis le début avec Adolf Hitler. Donc il a vu la montée du Troisième Reich, l'avènement d'Hitler à la tête du parti nazi et tout le reste. Là. Et voilà qu'en 1940, il prend une décision. C'est une décision qui lui revient seule. Ça se fait sans l'aval des autorités du Reich et bien sûr sans l'aval d'Hitler lui-même. Il prend un avion. C'est un pilote. Il prend un avion et on est en 1941 et il se rend en Angleterre avec l'intention de négocier en secret la paix entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et son avion va s'écraser, il saute en parachute, il tombe en Écosse, et là, il demande à parler à des hauts dignitaires. Il est de facto arrêté parce qu'on le reconnaît comme étant Rudolf Hess. Et éventuellement, ces pourparlers n'auront jamais lieu, puisque immédiatement, lorsqu'il est capturé, en Allemagne, l'information arrive aux oreilles d'Hitler, qui répudie, bien sûr, Hess comme étant son dauphin, etc., etc. Donc, la Deuxième Guerre mondiale s'achève. Il y a ces fameux procès. Bon, Rudolf Hess est détenu dans une prison britannique jusqu'à la fin de la guerre. À la fin du conflit, il y a ces fameux procès de Nuremberg où de hauts dignitaires nazis seront jugés pour leurs crimes commis durant le régime. Et Rudolf Hess, comme d'autres, est condamné à la prison à perpétuité dans une prison qui est administrée par les Alliés, qui est en Allemagne de l'Est, qui est la prison de Spandau. Et voilà que ce Rudolf Hess, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, des rumeurs ont commencé à circuler. Rumeurs d'ailleurs entretenues par un médecin qui était à la prison de Spandau, qui dit avoir examiné Rudolf Hess et il se questionnait, il avait laissé filtrer ça dans les médias en disant « C'est curieux parce que Rudolf Hess n'est pas supposé d'avoir l'homme que j'ai examiné a une cicatrice au coude alors qu'on ne retrouve pas ça dans les carnets militaires de Rudolf Hess. » Alors on a commencé à se poser la question « Si le Rudolf Hess en question, capturé par les Britanniques, avait été un sosie, pour X ou Y raisons, c'était quand même un peu confus, nébuleux les raisons qu'on évoquait, mais néanmoins, c'est une théorie du complot qui s'est maintenue et qui a été renforcée à partir de 1987, parce que ce Rudolf Hess, rappelle-toi Bernard, il s'est suicidé en 1987, il avait 93 ans, il s'est pendu dans une espèce de petite verrière qui était derrière la prison de Spandau. Et là, évidemment, son corps a été... on a d'abord inhumé son corps et parce qu'il y avait une espèce de fanatisme des néo-nazis qui circulait, là, donc on allait se recueillir sur la tombe de Rudolf Hess, on faisait des saluts nazis. Finalement, la famille, les descendants de Rudolf Hess, ont demandé à ce que le corps soit exhumé, il a été incinéré et ses cendres dispersées. Donc, il n'y a plus de tombe Rudolf Hess. Mais comme on a incinéré le corps, on n'avait plus de reste de Rudolf Hess. Et cette rumeur, on s'est dit, peut-être qu'on a voulu l'incinérer rapidement pour éviter de faire des comparatifs qui auraient pu permettre de découvrir le poteau rose. Mmh. Et voilà que cet article paru dans le Forensic Science vient mettre un terme à tout ça. En fait, il est écrit par un médecin, Sherman McCall, qui est un spécialiste de la génétique. Il lui raconte que lorsqu'il a commencé à faire médecine, il a découvert qu'en 1982, on avait fait un prélèvement sanguin à ce fameux prisonnier numéro 7 de Spendal, le fameux Rudolf Hess, qui, soit dit en passant, termine les dernières années de sa vie comme étant le seul prisonnier de la prison. Donc, on avait un échantillon sanguin. Et là, donc, on a pris cet échantillon sanguin. En fait, il s'agissait d'un frottis sanguin. On a fait une analyse ADN. On a comparé également cet ADN avec les descendants de Rudolf Hess. Il y en a 3 ou 4 en Allemagne qui ont été bien sûr cités dans l'article, mais sous le couvert de l'anonymat. Et les résultats sont définitifs. L'homme, le prisonnier numéro 7 de la prison de Spandau, était bel et bien Rudolf Hess.
Écoute, ça finit toujours de même, les histoires.
Je sais, non, là, c'est vrai qu'on m'accuse. On va dire, Christian Page, t'es un pétu de balloon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Bernard? Je peux pas aller à la rencontre des évidences.
Tu sais, t'étais un peu haletant. Tu dis, ben là, il va arriver de quoi? Là, mais non, finalement, le complot n'est pas justifié. Ouais, le mythe se dessouffle. Entendez-vous la balloune qui se vide?
Voilà. On devrait attendre en arrière un saut, genre pouette, 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 pouette.
Ah, ça, Larry peut nous trouver ça. Pouette, 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 pouette. Bon, parlons d'une autre histoire.
Écoute, cette histoire est sans aucun doute une histoire qui, pour moi, a été une fascination, même une obsession, je te dirais, pendant
l'affaire
des années.
L'affaire Dyatlov, là?
Oui, absolument.
Ah oui?
C'est l'affaire
la
plus étrange sur laquelle il m'a été donné d'enquêter. Je résume rapidement les faits. On est en 1959, dans la nuit du 1er au 2 février 1959. On a un groupe de 9 randonneurs qui se trouvent dans une région là, à peu près inhabitée de l'Oural, dans les montagnes de l'Oural. Ils vont installer leur tente. Et pour une raison inconnue, ils vont tous quitter leur tente. C'est littéralement une débandade. Ils quittent la tente, ils la déchirent de l'intérieur, s'enfuient sur les pentes de la montagne où ils se sont installés. Et éventuellement, ils vont tous mourir dans les heures qui suivent d'hypothermie. 4 d'entre eux vont tomber dans un petit ravin en essayant de se frayer un chemin.
Et je me rappelle, tu nous as parlé de cette histoire-là déjà. Continue, parce que je me souviens à un moment donné que tu nous l'avais... Il était question d'un test d'armement, d'un nouvel armement.
Voilà, il y a toutes sortes d'hypothèses. Cette affaire-là, écoute, à l'époque, en 1959, on avait chargé un ancien enquêteur du département des enquêtes criminelles, un certain Lev Ivanov, de faire l'enquête là-dessus. Et il avait terminé son enquête en mai 1959 en disant « Ces gens sont tous morts d'hypothermie, sauf 4 d'entre eux qui s'étaient blessés en tombant dans un ravin, dont 3 avaient des blessures mortelles. » Mais il dit « La cause de cette débandade, les jeunes ont visiblement cédé à une force irrésistible inconnue. » Ouais. Alors, tu comprends que c'est la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Et au cours des 60 dernières années, on a à peu près tout évoqué. Le Yeti, les extraterrestres, une expérience militaire qui aurait mal tourné, bon, etc., etc. Et voilà que vendredi dernier, on était le 1er février, date anniversaire, le 60e anniversaire de l'affaire Dyatlov qui n'a jamais été expliquée. Et voilà que le parquet général de Russie a annoncé qu'il rouvrait l'enquête sur l'affaire Dyatlov. Il va y avoir donc une nouvelle enquête pour essayer d'apporter des réponses que l'on n'a pas, en fait, depuis 1959. Donc, immédiatement...
Pourquoi ils décident de retourner là? C'est-tu parce que les familles des victimes l'ont demandé?
Parce que tu comprends... Il faut comprendre qu'au lendemain de l'affaire Dyatlov, rapidement, les autorités soviétiques, et on sait qu'en dehors de l'enquête de Lev Ivanov, le KGB, qui maintenant est le FSB, ont mené une enquête sur l'affaire Dyatlov et le dossier n'a jamais été rendu public. Alors, tout ça a alimenté des rumeurs. Et maintenant que la Russie est un peu plus ouverte avec le reste du monde, l'affaire Dyatlov, qui était à peu près inconnue en Occident, là, jusqu'aux années 80-90, maintenant fait à peu près partie... Il n'y a pas un livre, en fait, qui se publie sur les énigmes de l'histoire récente qui n'évoque pas l'affaire Dyatlov. Et évidemment, on pointe toujours du doigt les Soviétiques ou la Russie, les anciens Soviétiques, en disant, écoutez, est-ce qu'on n'a pas essayé de nous cacher quelque chose? Est-ce que les militaires de l'ancienne URSS avaient quelque chose à voir là-dedans? Et c'est un peu pour faire un peu une transparence par rapport à ça. Il faut quand même le dire tout de suite, Bernard, le parquet général de Russie a fait savoir qu'il n'enquêterait pas sur les 75 hypothèses différentes proposées pour expliquer l'affaire Dyatlov, incluant les ovnis et l'Yeti, comme je l'ai mentionné, mais qu'ils allaient surtout se concentrer sur les 3 ou 4 hypothèses principales, lesquelles font intervenir essentiellement des phénomènes naturels. Donc, d'emblée, le parquet de Russie a annoncé qu'il n'enquêterait pas sur une possible implication des militaires. D'ailleurs, implication qu'il rejette tout à fait.
On Attends, là, tu nous avais parlé du test, un test d'une nouvelle arme
voilà.
ou quelque chose
parce
qui aurait pu créer tellement un bruit épouvantable que ça aurait pu susciter la panique chez ces randonneurs-là.
T'as bonne mémoire, Bernard. J'en avais parlé parce que les militaires ont toujours dit qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans, que cette région de l'Oural n'était pas une région utilisée pour faire des essais balistiques ou des tests militaires. Mmh. Or, l'an dernier, des randonneurs qui se trouvaient à cet endroit, qui s'appelle aujourd'hui la passe Dyatlov en raison de cet incident, ont découvert dans un boisé un morceau de métal qui montre très clairement qu'il s'agit de l'enveloppe d'un missile balistique. Donc, évidemment, on ne peut pas le lier directement à l'affaire Dyatlov, mais ça vient démontrer que cette région de l'Oural, contrairement à ce qu'avaient annoncé à l'époque les militaires soviétiques, cette région de l'Oural a bel et bien été à un moment donné ou à un autre, le théâtre d'opérations militaires. La découverte d'un morceau du revêtement d'un missile balistique démontre ça. Est-ce que les membres du groupe Dyatlov auraient été surpris par un essai comme celui-là et croyant qu'ils étaient la cible d'une attaque, auraient quitté en toute vitesse leur tente et éventuellement seraient décédés d'hypothermie? Ça reste à voir. Mais encore
Mais là,
une fois...
Tu nous dis que l'enquête qui vient d'être ouverte va exclure toute enquête sur l'armée russe ou soviétique. Donc, ça veut dire que cette hypothèse dont tu nous as parlé d'un test de missile balistique qui aurait créé un bruit effroyable, ça veut dire que ça va être écarté.
Absolument. Donc, les Russes, ouais, c'est un peu comme un jeu de semi-transparence. Hein? Les Russes disent, nous allons ouvrir à nouveau, faire une nouvelle enquête sur l'affaire Dyatlov, mais d'emblée, on vous dit qu'on n'enquêtera pas sur une possible opération militaire parce que, de l'intérieur, on exclut cette hypothèse. Donc, on ne nous dit pas pourquoi, mais en tout cas, ils excluent cette hypothèse. Ils vont se concentrer essentiellement sur des explications d'ordre naturel, c'est-à-dire...
Alors, si ce n'était pas ça, là, si ce n'est pas, pas un test balistique, là, puis on s'entend que ce ne sera pas le Yeti...
Ou les ovnis, on est d'accord. On s'entend bien là-dessus.
Alors, ça va être quoi, tu penses? Quelle serait, mettons, si on exclut toutes ces hypothèses, celle qui te semble la plus vraisemblable avec la connaissance que tu as du dossier?
L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est l'avalanche. Les jeunes ont cru, ou bien ils ont été frappés par une coulée de neige, une petite coulée de neige, ou bien ils ont cru qu'il y avait une avalanche et ils ont paniqué. Mais je te le dis tout de suite, Bernard, cette hypothèse m'apparaît la plus vraisemblable en appliquant la règle Sherlock Holmes. Hein, la règle Sherlock Holmes, c'est une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. Et dans le cas de la coulée de neige, il y a beaucoup d'éléments qui ne vont pas dans ce sens-là. Le premier étant que la pente sur laquelle la tente des jeunes était installée n'a que 18 degrés. Et d'après les spécialistes dans les avalanches, la pente est trop peu prononcée pour entraîner une coulée de neige. Mais j'avoue que si ce n'était pas une coulée de neige ou un tremblement de terre qui aurait pu faire croire aux jeunes qu'il y avait une coulée de neige, je ne vois vraiment pas, je n'ai aucune idée de la raison de cette débandade sur le mont Alachal dans cette nuit du 1er au 2 février 1959.
On en reparlera, Christian, lorsqu'on connaîtra les conclusions de cette enquête. Merci.
Ça
à vendredi
plaisir.
Prochain.
Toi aussi. Bon week-end.
Merci à Larry Dufresne. Merci à Maryse Duchesneau. Merci à Alexandra Marcoux. Et merci à Jessica Leblanc qui nous a accompagnés hier et aujourd'hui. Merci à vous, les auditeurs, d'être là. Soyez très, très prudents sur la route. Ce n'est pas des blagues. Soyez très prudents. Paul Aude s'en vient. Bye.